chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très, très intéressante étude. C'est la deuxième série sur l'évangile de Saint Marc. Et nous arrivons à l'étude numéro 6. Tu es le Christ. Chapitre 8, versets 27 à 33. Il est dit que Jésus s'en alla ensuite avec ses disciples dans les bourgs dépendants de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il posa cette question à ses disciples. « Qui suis-je au dire des gens ?» Eh bien, les uns disent « Jean-Baptiste », répondit-il. D'autres disent que tu es Élie, d'autres encore, tu es l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Ou qui je suis? Eh bien, tu es le Christ, lui répondit Pierre promptement. Alors il leur enjoignit avec force de n'en rien dire à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît, qu'il fût rejeté par les anciens des grands prêtres et des scribes, qu'il fût mis même à mort et qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Et c'est ouvertement qu'il disait cela. Et Pierre, alors, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et admonesta Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Oui, voyez-vous, Jésus se sait être un mystère pour ceux au milieu desquels il vit en fils vrai de Dieu. Il parle avec une autorité et agit avec une puissance qu'on ne trouve chez nul autre. Pourtant, il est issu d'un milieu modeste. On connaît sa famille. Il appartient au peuple tout ordinaire. Par surcroît, il est galiléen et nul n'ignore que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Saint Jean chapitre 7, verset 52. Bien mieux, sa patrie est Nazareth. On ne savait pas qu'elle était en réalité Bethléem. Et de Nazareth en particulier, il ne peut rien venir de bon non plus. Saint Jean chapitre 1, verset 46. Les esprits sont donc en suspense et l'on s'interroge. Les disciples eux-mêmes sont parfois perplexes. Or, il faut que du moins soient bien au clair désormais et qu'ils sachent qui est leur maître, car bientôt, ils seront mis à rude épreuve. Mais pour le moment, ils sont encore sous le coup de l'engouement des foules, mais l'hostilité croissante des pharisiens, des prêtres et des scribes les fait réfléchir. Jésus ne les a-t-il d'ailleurs pas mis en garde contre l'esprit qui les anime et les aveugle? On s'est mis en route maintenant vers le territoire de Césarée de Philippe, afin d'y être un peu tranquille. Une fois seul, Jésus, selon son habitude, s'isole pour prier et bien discerner la volonté de son Père. Quand ses disciples le rejoignent, selon Saint Luc chapitre 9, verset 18, il leur demande chemin faisant, « Que pensent les gens de moi ? Qui disent-ils que je suis ?» Et c'est là, de la part du Maître, une façon de les amener à préciser leurs propres pensées, à y voir plus clair eux-mêmes. Eh bien, ils répondent ceci, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie ou Jérémie, selon Saint Matthieu chapitre 16, verset 14, ou encore que tu es l'un quelconque des anciens prophètes ressuscités, Saint Luc chapitre 9, verset 19. Mais vous, ajoute Jésus, qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ, répond aussitôt Pierre l'impulsif. Il le dit dans un éclair de vérité. Il convient ici de compléter la relation de Saint Marc et de Saint Luc par celle de Saint Matthieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cela ne t'a été relevé ni par la chair, ni par le sang, mais par mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, l'enfer c'est le Hadès des Grecs, et c'est le séjour des morts, ou c'est le Sheol des Hébreux. Donc les uns nomme l'enfer le Hadès, et les Hébreux, eux, ils nomment l'enfer que c'est le Sheol. Eh bien, les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elles. Je te donnerai donc les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Selon Saint Matthieu, l'apôtre Pierre ne reconnaît et n'affirme pas seulement la messianité de Jésus, il est loin, donc loin, le Christ. Il est le Messie qui est annoncé par les prophètes et qui est attendu par Israël. Mais il voit en lui, l'apôtre Pierre, il voit en lui tout de même le Fils du Dieu vivant. Ce que devient l'homme qui est avec Dieu, et ne vivant que de lui. Donc, on peut dire que cela incarne en quelque sorte l'amour et l'œuvre à tous les chemins de la vie. On peut dire une voie de salut terrestre et céleste. On peut bien dire cela. Je le répète, cela incarne l'amour et l'œuvre à tous les chemins de la vie, une voie de salut terrestre et céleste. Nous acceptons donc, pour la faire nôtre, cette merveilleuse confession de l'apôtre Pierre, selon le témoignage de saint Matthieu. Mais avec la réponse que Matthieu met dans la bouche de Jésus et qui manque totalement dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, relatant absolument le même épisode, commencent donc les divergences d'interprétation et leur prolongement historique. Jésus le proclame tout d'abord heureux, heureux lui le pauvre Simon, fils de Jonas, parce qu'il a reçu cette révélation non de la chair et du sang, mais carrément du Père lui-même. C'est donc l'Esprit Saint qui l'a fait parler. Et jusqu'ici, point de difficulté, mais Jésus ajoute « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Cela n'a évidemment rien à faire avec la théologie des catholiques. Autrement dit, Simon a des mérites en ce moment, mais hélas, ce ne sera pas toujours le cas par la suite, même immédiate. D'être appelé Pierre, comme l'a surnommé Jésus en l'invitant à le suivre, selon saint Jean chapitre 1 verset 42, et noté saint Marc chapitre 3 verset 16, et encore saint Luc chapitre 6 verset 14, afin de souligner à ses yeux l'absolue nécessité pour lui d'une radicale conversion qui ferait de l'homme qui est facilement enthousiaste et très généreux, mais parfois aussi versatile, donc qui ferait de lui un homme dont la foi solide et le témoignage courageux serait en bénédiction aux autres et constituerait l'inébranlable fondement sur lequel s'édifierait l'Église à venir. Cela veut-il dire que l'Église de Jésus-Christ s'édifiera sur Pierre seul, ou même d'une façon spéciale, à la lumière du témoignage évangélique et des écrits apostoliques? Ce n'est donc pas le cas. Ça n'a rien à faire avec la théologie catholique. L'apôtre Paul reprendra Pierre ouvertement et dénoncera chez lui un moment de lâche opportunisme, Galates 2, versets 11 à 14. Mais c'est Pierre lui-même qui, dans sa première épître, voit en Jésus seul, la pierre vivante, alléluia, cette pierre vivante qui est rejetée par les hommes, mais que Dieu a jugée précieuse et qu'il a choisie. C'est donc lui qui est la pierre angulaire dont parle le psalmiste dans le psaume 118, et je crois verset 22. Et dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Et c'est sur cette pierre que s'édifie avec les pierres vivantes que deviennent tous les chrétiens eux-mêmes dans la communion de Jésus. Là se trouve donc la maison spirituelle. Là se trouve le saint sacerdoce, ou sacerdoce royal, c'est-à-dire la race élue. Oui, voyez-vous, la nation sainte, le peuple racheté, ou peuple de Dieu, c'est ça l'Église. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 4 et 10. Appelé par saint Paul le corps du Christ, selon Éphésiens, chapitre 1, verset 23. Il est donc bien évident, et cela ressort avec force des textes les plus autorisés, que tout chrétien, vous et moi, qui confessons avec l'apôtre Pierre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qui, avec lui, revient au Père comme étant le Fils prodigue de la parabole selon saint Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Et ceci pour vivre désormais en Fils véritable, oui, en Fils véritable, et joyeusement soumis à l'autorité paternelle. Nous devenons donc par là même, nous devenons une pierre vive, une pierre vivante, sur ou avec laquelle Jésus-Christ peut maintenant bâtir son Église. On peut bien dire Alléluia. À leur tour, les paraboles qui suivent prennent alors, et tout naturellement, leur véritable sens. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand on est éclairé par l'Esprit de vérité, selon saint Jean chapitre 14, verset 1, non verset 17, je répète donc saint Jean chapitre 14, verset 17, et toujours saint Jean chapitre 16, verset 13. Alors là, on parle et on agit selon la vérité. C'est que alors, on appelle bien et toujours le bien. Et ce que on appelle mal restera toujours le mal. C'est vrai pour la terre et c'est vrai pour le ciel. Parce que on parle dans la lumière de Dieu. De même, ce que l'on est poussé à faire participe, selon, on est poussé à faire participe donc de la même vertu, et on peut aussi dire des mêmes prolongements. C'est donc du définitif, c'est de l'indestructible, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est conforme aux exigences des lois de l'univers spirituel. Cela va donc grossir le trésor des biens éternels, selon saint Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Écoutez cela. Tout disciple est donc témoin authentique de celui, c'est-à-dire de Jésus, qui est pour l'homme la voie, la vérité et la vie. Saint Jean chapitre 14, verset 6. Donc, tout disciple reçoit ainsi les clés du royaume des cieux, celles qui ouvrent à l'homme ici-bas déjà et dans l'au-delà les portes de la vie. Ça vaudrait la peine de répéter. Tout disciple est donc témoin authentique de Jésus-Christ, qui est pour l'homme la voie, la vérité et la vie, reçoit donc les clés du royaume des cieux, celles qui ouvrent à l'homme ici-bas déjà et ensuite dans l'au-delà, les portes de la vie. C'est vrai pour lui d'abord, en sorte qu'il est heureux et ne se pose même plus la question de son salut, plus besoin de la poser, puisque il ou elle a tout, absolument tout, dans le Christ Jésus. Mais c'est vrai aussi pour ceux auxquels il a affaire et qu'il doit éclairer sur leurs propres conditions, dont la lumière de l'Esprit Saint qu'apporte et que confère Jésus la lumière du monde, selon saint Jean chapitre 1 et chapitre 4, non, selon saint Jean chapitre 1, verset 4, excusez-moi, et toujours saint Jean chapitre 8 et verset 12. Donc l'homme devient lui-même une lumière pour les autres. C'est important de se rappeler cela. Je répète pour qu'il n'y ait pas de malentendu, dans la lumière de l'Esprit Saint qu'apporte et que confère Jésus, qui est la lumière du monde, selon saint Jean chapitre 1, verset 4, et chapitre 8, verset 12, l'homme devient donc lui-même, vous devenez, vous et moi, la lumière pour les autres, selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 14. Il parle donc et agit dans la lumière, et cela de façon valable pour l'éternité. C'est pourquoi, après sa résurrection, Jésus peut dire à tous ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, il a dit cela, comme mon Père m'a envoyé, eh bien, moi, je vous envoie maintenant. » Et il ajoute, en soufflant sur eux, « Recevez maintenant l'Esprit Saint. » Donc ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le besoin fondamental de l'homme, c'est d'être dans le Christ Jésus, effectivement relié à Dieu le Père, qui est la source de toute lumière et de toute vie. Il devient alors, vous devenez alors, un vivant de l'éternelle vie, et vous contribuez à faire vivre les autres. Après avoir formellement interdit aux disciples de parler à quiconque de sa messianité, car ce n'était pas encore le moment, Jésus commence à les préparer aux dures échéances qui approchent. Il sait qu'elles sont absolument inévitables, qu'elles font partie de sa mission messianique. Il en a eu la claire révélation dans la prière. Il commença donc à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît, qu'il fût rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours plus tard, et c'est ouvertement qu'il disait tout cela. Comme tout à l'heure déjà, c'est l'apôtre Pierre qui, n'écoutant que son cœur, tire Jésus à part, le reprend vivement et lui dit « Oh, à Dieu ne plaise, Seigneur. Non, 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 cela ne t'arrivera pas. C'est Matthieu chapitre 16, verset 23. Voyez-vous, tout à l'heure, l'apôtre Pierre a parlé dans la lumière de l'Esprit Saint. Il a été, comme on peut dire, la voix même du Père, proclamant la messianité du Fils. En le faisant, il s'interrogeait, et on peut dire plus que cela, il s'intégrait carrément au monde des bienheureux. L'apôtre Pierre, vraiment, est exceptionnel. Mais de pierre vive qu'il avait été à ce moment-là, il devenait maintenant, hélas, une pierre d'achoppement. Si vous voulez, une occasion de chute, un obstacle à la volonté divine. Et Jésus le repousse. Il lui dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 23. Prions un petit moment ensemble. Ô Jésus, mon Seigneur, avec l'apôtre Pierre que tu as appelé à te suivre en dépit de ses insuffisances et de sa lâcheté, je te dis moi aussi, du fond d'un cœur qui veut être à toi, tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fais toi-même de cette confession quelque chose de vrai pour moi. Qu'effectivement, je vive désormais de ta vie d'envoyé du Père et de Fils de Dieu. Par l'Esprit, cet esprit d'amour et de vérité que tu m'apportes, garde-moi maintenant de vouloir édulcorer, d'amoindrir ta parole, de vouloir la fadir, ce sel du royaume, ou même peut-être atténuer sa lumière. Loin de moi tout cela. Oui, Seigneur, moi en toi maintenant, et toi en moi, dans l'obéissance du Père, pour le service et le salut des hommes, pour mes frères et sœurs, ainsi soit-il en vérité. Amen. Chers amis, comment suivre Jésus? Chapitre 8, verset 34 et chapitre 9, verset 1. Appelant alors la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher sur mes traces, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. En effet, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Ou que ne donnerait un homme en échange de sa vie? Si quelqu'un, vous dis-je, a honte de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, eh bien le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est le chapitre 9 de Saint Marc, chapitre 9. Et il ajoute à leur intention, en vérité je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront pas la mort qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Il s'agit donc pour moi, pour nous, Seigneur Jésus-Christ, de marcher avec toi sur les chemins de la terre et de suivre tes traces. Autrement dit, il s'agit pour moi, pour nous, de comprendre la vie comme tu l'as comprise et de vivre avec Dieu le Père et avec les hommes comme tu l'as fait toi-même. En aimant Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, pour ne faire en toute chose que sa volonté, qui est celle de notre Père des cieux. Donc en aimant les hommes, comme un frère véritable aime ses frères et ses sœurs, pour ne leur souhaiter dans le secret de mon cœur et pour ne leur vouloir et ne leur faire dans ma prière et dans mes actes que du bien, que du bien. Et pour qu'il en soit ainsi, je le comprends, il faut donc que je me renonce à moi-même, puisque mon égoïsme, qui devient facilement de l'égocentrisme, il fait obstacle à tout cela. Alors il faut qu'avec toi, je sois moi en toi, et Seigneur, j'accepte ainsi de vivre pour Dieu à sa gloire et dans l'intérêt de mes frères et sœurs pour contribuer à leur salut. Je répète, il faut qu'avec toi, Jésus-Christ, je sois moi en toi et toi en moi, puisque par moi-même, je ne peux rien, selon Saint Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Alors Seigneur, j'accepte de vivre pour Dieu le Père à sa gloire et uniquement dans l'intérêt de mes frères et sœurs pour contribuer à leur salut. Très important cela. Il faut donc en d'autres termes que je me range à la grande loi de la vie, c'est-à-dire cette loi qu'obscurément accomplit l'abeille, vous savez les abeilles, et même les fourmis, en se soumettant à une faim souvent qui les dépasse, et en vivant pour que vive avec elle, par elle et après elle, la ruche ou la fourmilière. Ceux qui ont une notion des abeilles et des fourmis savent ce que je veux dire par là, ou si je le répète, il faut donc en d'autres termes que je me range à la grande loi de la vie, cette loi qu'obscurément accomplit l'abeille ainsi que la fourmi, en se soumettant à une faim qui la dépasse et en vivant pour que vive avec elle et par elle et même après elle, la ruche ou la fourmilière. Ce qui, pour moi, signifie, bien entendu, la croix, la croix, dont je dois me charger chaque jour, même s'il y a des moments difficiles. Comme tu es mort, Jésus, sur la croix, où t'as cloué le péché du monde juif et du monde païen, et comme tu as dû te charger de cette croix pour monter au calvaire, je dois moi aussi mourir à moi-même, me renoncer à moi-même en tant que pécheur, et j'accepte avec toi également de souffrir s'il le faut, dans l'amour qui apprend à pardonner en raison du péché des autres. Vous savez, il n'y a pas que la théorie de la richesse et des biens de ce monde. Il y a aussi autre chose. Rien de ce qui s'oppose à la volonté divine et à notre salut, donc à notre intérêt bien compris, ne doit plus trouver en moi, en nous, de complaisance ni de complicité. Mais en acceptant, dans la lumière d'un choix éclairé par libre décision, ce renoncement et cette mort, je m'ouvre donc à l'éternelle vie, c'est-à-dire celle que Jésus apporte au monde. Oui, Seigneur Jésus-Christ, la vie que par ton incarnation et par le don que tu en as fait à l'homme sur la croix pour nous tous, tu as mis à jamais dans notre humanité terrestre une vie que la mort physique n'a pu que servir en te donnant l'occasion de la mieux manifester par la résurrection et de la glorifier à jamais par ton ascension, parce que c'est la vie même de Dieu le Père, se donnant ainsi l'expression humaine qu'elle comporte à son vrai, à son véritable niveau ici-bas. Et c'est donc ainsi que la vie qui se cherche dans le monde animal se trouve elle-même dans l'homme spirituellement majeur. Elle ne se transmet donc plus seulement d'une génération à l'autre, cela c'est la vie à l'état d'ébauche, mais quand il s'agit de la vie humaine avec ses possibilités, elle rejoint sur le plan d'une personnalité consciente celui qui est Dieu. Elle s'unit donc délibérément à sa source et s'épanouit au bénéfice de la création en attendant d'être un jour libérée en quittant la chair des contingences de l'espace et du temps. Il devient donc tout à fait clair qu'en perdant ma vie telle que l'a fait le monde, eh bien je la sauve en réalité. Alors, comment pourrais-je encore avoir honte de toi, Seigneur, et de tes paroles? On ne rougit pas de qui l'on vit, ni de son enseignement. On rougit parfois, c'est vrai, de celui qu'on estime en secret sans lui appartenir. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand les autres se moquent de lui. Mais on ne saurait rougir de toi, Jésus. Tout de même, voyez-vous, ce serait si bon que les autres autour de moi emboîtent le pas à ceux qui cheminent déjà dans la voie, dans cette voie-là, Et ensemble, nous serions donc beaucoup plus forts et notre cœur pourrait être à l'aise. Et voici encore l'énigmatique et surprenant verset sur lequel s'ouvre le chapitre 9. Sans doute en réalité, comme le veut saint Matthieu, clôt-il en quelque sorte le chapitre 8, mais que faut-il en penser? Que faut-il en penser? Eh bien, les trois synoptiques, puisque cela s'appelle ainsi, sont d'accord pour ce qui est de l'essentiel quand ils affirment que Jésus a parlé d'une venue du royaume dont seraient témoins quelques-uns de ceux qui l'écoutent. On comprendra de toute évidence, il ne peut s'agir de l'événement universel et de l'événement final du royaume de Dieu sur la terre. Par contre, essayons de comprendre, plusieurs de ceux qui l'attendaient allaient s'émerveiller, surtout le jour de la Pentecôte. Cette effusion spectaculaire de l'Esprit Saint et les événements non moins étonnants qui en résultèrent ne furent-ils pas, en quelque sorte, une première et authentique et puissante venue du royaume? Eh bien, c'est à cela que tu pensais, Jésus. Et si cette puissante venue du royaume n'entraîne pas à brève échéance son triomphe et son avènement complet, eh bien, c'est tout simplement parce que elle a la heurté, on peut dire, contre le matérialisme épais de ce monde. Et elle allait donc ainsi s'enliser pendant 21 siècles dans les sables d'une nouvelle religion de compromis et d'abdication de toutes sortes. Mais on retrouvera, pour en vivre vraiment, ta parole qui subsiste éternellement dans sa pureté, avec ses exigences de toute totale rénovation. Et ce jour-là, oui, la première Pentecôte aura donc son accomplissement. Nous pouvons maintenant prier, parce que nous commençons à pouvoir comprendre ce que ça voulait dire. Tu viens de me parler, Seigneur, et tu m'as dit que je dois mourir à moi-même, tel que le monde m'a fait, même si c'est avec la complicité d'une religion qui se réclame de toi. Tu m'apportes une vie de glorieuse liberté quant au monde et à moi-même. Je ne peux donc que la recevoir de toi par l'Esprit Saint, dans l'obéissance au Père. Le monde me dit que c'est fou, et beaucoup de chrétiens me disent que c'est même impossible. Tant mieux, puisque la sagesse du monde n'est que folie devant Dieu, et puisque ce qui est impossible aux hommes est heureusement possible à Dieu. Cela m'obligera donc à ne vivre que de Dieu, mon Père. Avec toi, Seigneur Jésus, je dis merci. Amen. Nous arrivons maintenant à la Transfiguration, chapitre 9, versets 2 à 8. suite. 10 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les amène seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut là, transfiguré en leur présence. Ses vêtements devinrent resplendissants. Ils sont devenus ses vêtements d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Et ensuite, leur apparurent Élie avec Moïse, qui s'entretenait avec Jésus. L'apôtre Pierre, alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ce qu'il ne savait pas que dire, car ils étaient en réalité terrifiés. Et il se forma une nuée qui les enveloppa, et de la nuée sortit une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain, comme ils regardaient autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Donc 6 jours après, chers amis, il est dans la vie des moments qu'on n'oublie jamais. Des moments à quoi on rapporte tout, comme on rapporte tout au massif dominant dans un paysage de montagne. L'entretien qui avait eu lieu près de Césarée de Philippe, notez le chapitre 8, versets 27 à 33, constituait un de ces moments-là pour les 12. Et 6 jours après, donc, toujours dans la même région sans doute, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les amena seuls à l'écart sur une haute montagne. L'un des contreforts de l'Hermon, selon toute probabilité, en dépit de la tradition qui nous désigne le Tabor, Luc précise l'intention de Jésus. C'était pour prier, tandis qu'il priait, continua-t-il, voilà que l'aspect de son visage changea, et ses vêtements sont devenus d'une blancheur éblouissante, selon saint Luc, chapitre 9, verset 29. Marc et Matthieu disent qu'il fut transfiguré en leur présence. Tous les deux parlent d'un resplendissement et le décrivent comme habillé de lumière. Il était donc comme habillé d'une lumière incroyable qu'on ne peut pas décrire. Et Matthieu compare l'éclat de son visage à celui du soleil. Il émanait donc de lui carrément de la lumière. Et bientôt 2 hommes apparaissent dans la gloire, selon saint Luc, chapitre 9, verset 31. Et ils s'entretenaient avec Jésus. Il s'agit là donc de Moïse et d'Élie, représentatifs de la loi et des prophètes. Il parle avec Jésus de son trépas qui devait être consommé à Jérusalem, saint Luc chapitre 9, verset 31. Et eux, en eux donc, l'Israël qui a su répondre aux intentions divines dans le passé se tient maintenant aux côtés aux côtés du fils Messie, le Messie, pour le soutenir. Donc, pour le soutenir au moment où celui-ci va donc accomplir toute la loi et les prophètes en acceptant d'être l'homme de douleur, selon Ésaïe 53, verset 3. C'est intéressant et important de revoir cela. Donc, en eux, l'Israël, qui a su répondre aux intentions divines dans le passé, se tient maintenant aux côtés du Fils Messie pour le soutenir au moment où celui-ci va accomplir toute la loi et les prophètes en acceptant d'être l'homme de douleur, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 53, verset 3. Et les disciples sont lourds de sommeil, selon Luc, chapitre 9, verset 32. Mais cette manifestation bouleversante, on peut bien le dire, du monde invisible, les tient tout de même éveillés malgré leur fatigue, et ils en sont même terrifiés, en même temps que remplis d'allégresse. Alors ils voudraient que cela dure, et au moment où Moïse et Élie semblent vouloir s'en aller, selon Saint Luc chapitre 9 verset 33, Pierre s'écrie, sans trop savoir ce qu'il propose, il dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons donc dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais à ce moment précis, ils sont tout à coup enveloppés d'une nuée lumineuse. Ceci est précisé par Saint Matthieu. Et de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Terrifiés, les disciples sont tombés la face au sol, selon Matthieu chapitre 18, non, c'est Matthieu chapitre 17, verset 6. Matthieu 17, verset 6. Il faut donc que Jésus s'approche et qu'il les touche et qu'il leur dise, pour les rassurer, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » C'est Matthieu chapitre 17, oui c'est bien 17, verset 7. Alors les disciples se relèvent et regardent autour d'eux, mais voilà que tout a disparu, et la nuit est calme sous le ciel étoilé, et il n'y a plus avec eux que Jésus seul. Jésus seul pour marcher au calvaire, car les disciples ne peuvent encore ni comprendre ni accepter cela. Penchés sur cette page troublante et lumineuse du message évangélique, je m'arrête longuement et je me rends compte qu'une seule attitude convient, c'est celle de celui qui adore et qui rend grâce dans la contemplation méditative. Car avec Jésus, les disciples sont parvenus à la frontière de deux mondes auxquels participe notre vie, le monde terrestre et le céleste. Quelque chose de la gloire du ciel est descendu jusqu'à eux et leur est devenu perceptible. Et cela en raison même de l'expérience de communion intense avec le Père et le monde spirituel que fait leur maître quand il accepte le don total de sa vie qui lui est demandée. Et Jésus, en effet, au moment où il arrête longuement dans la prière, sa pensée, on peut dire acceptante, sur le drame de l'univers, sur le salut qui va se consommer par le moyen de son sacrifice, il s'en entretient avec Moïse et Élie. Pénétrer donc si profondément dans le monde spirituel qu'il en est extérieurement transfiguré et que ses disciples en sont évidemment éblouis. Il s'agit bien ici, et cela peut s'imposer, d'un rayonnement de l'être lui-même, et non pas simplement d'un simple reflet. C'est la lumière du soleil, et non pas celle de la lune. La chair, pendant un temps, est carrément transfigurée par la densité de l'Esprit Saint. Elle vibre à un diapason supérieur. Et sans doute, la science un jour établira-t-elle le caractère normal d'un phénomène de cette nature, étant donné, bien entendu, la personnalité unique de Jésus. Mais ce que souligne à mes yeux cette page de l'Évangile que Dieu a jugé bon de nous donner, c'est qu'il n'y a pas de cloison étanche entre le ciel et la terre, entre le monde glorieux ou satanique, hélas, ni de l'esprit et celui de notre humaine condition. Les deux mondes s'interpénètrent en quelque sorte, le monde de la chair soupirant après le monde de l'esprit et l'appelant à son aide, et le monde de l'esprit venant éclairer et soutenir le monde de la chair dans sa marche ascendante. Mais encore, faut-il que tout cela reste parfaitement pur et que l'homme, quand il regarde vers l'au-delà, ne regarde que vers le ciel et ne cherche que la blanche lumière qu'apporte à la terre Jésus, c'est-à-dire la lumière du monde. Le ciel, ce récit, me le fait comprendre et comme touché du doigt, et le monde, c'est le monde des vivants. Et ce monde de la vie bienheureuse, tout entier, qui est voué à l'accomplissement de la volonté divine, ce monde s'intéresse à notre monde terrestre et lui vient en aide. Il se réjouit avec lui de ses victoires, selon saint Luc, chapitre 15, verset 7. Et les anges, dont la Sainte Bible nous parle et qu'elle nous montre à l'œuvre déjà dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ces anges sont là pour aider les humains de la part de Dieu. Et comme Moïse et Élie interviennent visiblement pour assister Jésus à un moment décisif, les bienheureux invisibles qui nous ont précédés de l'autre côté du voile, ceux en particulier que nous nommons les saints, nous servent, oui, ils nous servent, et ils nous assistent. Souvent, ils font cela à notre insu, et quelquefois même visiblement. Je suis en effet frappé par le fait que Dieu a voulu la présence de Pierre, de Jacques et de Jean sur le mont de la Transfiguration, alors qu'habituellement Jésus s'en allait seul à l'écart pour prier. Il fallait donc ces témoins dans l'intérêt même de l'Église. Il fallait qu'elle sût que le ciel n'est ni vide ni lointain, que les questions d'espace et de temps ne se posent absolument plus dans le monde spirituel. Il fallait donc surtout qu'elle sût de connaissance certaine que tout en ne rendant son culte que à Dieu seul, à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, elle aurait donc besoin, pour vaincre le monde et le conduire au salut, d'un ciel tout proche, qui est ouvert et fraternellement actif. Le disciple, en effet, n'est pas au-dessus de son maître. Et ce que les hommes, même les mieux intentionnés, ne sauraient parfois faire pour nous, eh bien les anges et les esprits bienheureux le peuvent. Si vous voulez mieux comprendre tout au sujet des anges et le ciel, vous pouvez écouter les CD sur Internet, si vous avez Internet, 3xW, Bible explique, en un seul mot, .ch. Et là, vous pouvez donc trouver plus de 3000 études bibliques, y compris tout au sujet des anges, du ciel et même de l'enfer. Chers amis, je compte beaucoup chaque jour sur l'aide de mes semblables. Je ne saurais m'en passer pour beaucoup de choses et je la réclame. Et en cela, je n'ai pas tort, puisque nous formons tous une famille de frères et sœurs qui doivent s'entraider. Mais quelle place occupe dans ma vie quotidienne l'attente de ce que mes frères invisibles peuvent pour moi, pour nous tous, et je parle des anges, est-ce que je compte sur eux plus encore que sur mes frères visibles, comme il est normal que je le fasse pour peu que je demeure dans la réalité du monde biblique, évidemment. Mon adoration, certes, n'ira toujours que à Dieu seul, car tout vient uniquement de Dieu notre Père. Mais Dieu a voulu que nous soyons ses collaborateurs et que nous apprenions à travailler ensemble, ensemble dans la lumière et dans la force du Saint-Esprit qui nous dispense à tous. Je puis donc et je dois donc me tourner vers mes frères et sœurs et surtout vers mes frères invisibles dont je vous ai parlé, comme je me tourne aussi vers mes semblables chaque jour. Surtout, je peux demander à Dieu qu'il se serve d'eux pour accomplir ce que ne saurait faire les hommes et pour m'assister en quelque sorte, comme il sait lui, mon Père, que j'ai besoin de l'être. Encore une fois, vous verrez que ce monde spirituel existe bel et bien et que nous pouvons demander leur aide et être assistés. C'est une réalité. Plus j'arrête ma pensée sur ces bienheureuses réalités, mieux je comprends que ma vie ne trouvera sa qualité, son expression et son utilisation véritable qu'en s'ouvrant à toutes les grâces, à toutes les communions et à toutes les assistances, en particulier que le Père a voulu pour ses enfants. Et ce qui est vrai pour moi, membre de l'Église, est vrai également pour l'Église comme telle. L'Église ne sera tout à fait l'Église, c'est-à-dire, vous l'avez compris, le corps de Christ, le corps du Christ, l'incarnation du Verbe continué à travers les siècles de notre histoire, que lorsque le ciel et la terre pourront se rencontrer et s'unir en elle comme en Jésus-Christ. Le monde alors pourra croire et pourra vivre et verra donc s'ouvrir une voie de salut. Terminons, chers amis, cette étude maintenant, si vous le voulez bien, par la prière. Prions. Béni sois-tu, Père, pour les victoires et les joies que connaissent tes enfants dans le ciel et sur la terre, lorsqu'ils travaillent ensemble pour que ta volonté soit faite. Parce que tu es un vrai Père et que nous devons être de vrais frères et sœurs, tu as voulu que nous soyons et que nous ayons besoin les uns des autres, et que, humblement, il faut bien le dire, humblement, dans la reconnaissance et dans la joie, nous puissions apprendre à nous appuyer en toi, et aussi les uns sur les autres. Comme ton Fils, au jour de sa chair, et bien plus encore que lui, j'ai et nous avons besoin du ministère de tes anges et de l'assistance des invisibles qui l'ont servi avant moi sur la terre. Merci de m'en donner l'assurance et qu'à toi, Père, comme au Fils qui t'a glorifié et que tu as glorifié en revienne à jamais toute la gloire par l'Esprit Saint. Amen. Et chers amis, je vous prie, si vous possédez Internet, moi je ne l'ai pas, mais vous pourrez trouver une série, par exemple, phénoménale, c'est un témoignage authentique de Marietta. J'en dis pas plus, vous le découvrirez et vous apprendrez quelque chose d'incroyable. Je dis bien la série sur le témoignage de Marietta. À demain matin, Dieu voulant, pour continuer notre série, ce sera la série numéro 7 et nous commencerons par des questions troublantes. Pour l'instant, j'essayerai de vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, mais on n'en a plus le temps, peut-être seulement un, si cela fonctionne, de 1962.
with each passing moment. Strength I find to meet my trial here, trusting in my Father's wise bestowment. I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, give unto each day what he deems best. Lovingly, its heart of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I live not faith, sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, dare to take as from Father's hand, one by one, the days, the moment.